apporter de l'aide, venez-leur en aide. On s'en va parler du budget fédéral qui va être adopté normalement aujourd'hui à la Chambre des communes avec Gabriel Giguère, analyste politique senior de l'Institut économique de Montréal. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Gabriel, des crédits d'impôt, des subventions, d'autres formes d'aide aux entreprises sont inclus dans les dépenses en capital, ce qui fait en sorte que quand le gouvernement nous dit « Hey, il y a un gros déficit, mais c'est pas grave, on investit 311 milliards sur 5 ans », c'est pas vrai pantoute, ça?
C'est pas vrai pantoute. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière avec le rapport du directeur parlementaire du budget qui nous indique qu'après avoir analysé le budget 2025, ben, le gouvernement Carney a manqué énormément de transparence envers la population canadienne. On a en quelque sorte gonflé là, le montant de dépenses en capital de 94 milliards de dollars. Puis ça, ce que ça veut dire, là, c'est que ça vient jouer avec l'acceptabilité politique, l'acceptabilité sociale, parce qu'ils viennent nous vendre à la population. Inquiétez-vous pas, c'est de la dette productive. On va construire des choses, des routes, des maisons c'est avec ça. Bâtir Maison Canada.
C'est un budget générationnel, Gabriel. Générationnel de déficit.
Ben, c'est exactement ça, c'est générationnel de déficit. Là, on comprend là, entre les lignes que c'est comme s'il y avait une proportionnalité entre le montant de l'endettement injustifié et l'enflure verbale du ministre des Finances, François-Philippe Champagne, qui nous dit que c'est toujours générationnel, mais qu'au final, on comprend très, très bien avec le nouveau rapport du directeur parlementaire que c'est problématique, hein, parce qu'on vient dire ici, là, le gouvernement Carney ne respecte aucun critère international, qui ne permet pas les comparaisons entre pays des dépenses en capital, et ce qui fait en sorte que cette subjectivité-là, on envoie des subventions, on envoie des crédits d'impôt qui ne sont pas des dépenses en capital, qui sont des dépenses de fonctionnement. Donc, on manque de transparence et on en manque tellement que le PBO nous dit « Mais là, faites attention, là, mettez sur place un comité indépendant parce qu'il manque de transparence avec la population, le gouvernement actuel. » Donc, on endette. On endette et on endette encore. Là, on projette 300 milliards de dettes de plus. Puis ça, ben, va falloir payer l'intérêt. C'est 75 milliards de dollars à payer en 2029-2030. Ça va être nous qui allons payer ça. C'est une augmentation de 30 % même plus que 30 % par rapport à en ce moment. Bref, on est en décalage avec l'ancien gouvernement de Justin Trudeau. Parce qu'on est beaucoup pire.
Je regardais mes notes. Là, construire Maison Canada, ça date d'une couple de mois maintenant. On est là-dedans, donc on s'en tient à son plan. L'affaire, c'est que bien qu'on en construise des maisons au Canada, avec l'inflation, le coût d'en construire une, c'est énorme. Est-ce que bien qu'on ait une accessibilité peut-être plus accrue à travers les prochaines années à l'immobilier ou autre, on va être capable de se les payer avec les déficits puis tout ce qu'on a justement à se mettre de plus sur le chéquier des taxes et impôts?
C'est une bonne question. Moi, je pense que tu vas trop loin. Ils ne seront pas capables de construire ces maisons-là, pour être clair. Bâtir Maison Canada, le gouvernement a beaucoup d'idées, là, mais on l'a vu à travers l'international, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. Le gouvernement qui essaie de construire des maisons pour sa population, on n'y arrive pas. C'est un bec à l'eau, ça coûte beaucoup plus cher aussi que ce qui est prévu normalement. Donc ça, c'est le réel problème. Après ça, c'est sûr que ça peut augmenter le prix, puis c'est grave parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre, il y a une augmentation du coût de construction sur l'ensemble des maisons qui sont construites, que ce soit privées ou pas. Donc, il va y avoir très certainement un enjeu là. C'est pour ça qu'il faut en construire plus, mais c'est aussi pour ça que le gouvernement est mal placé. Et ça fait partie des dépenses en capital. Donc, le bureau du directeur parlementaire les inclut, mais on a trop rentré de dépenses qui n'en font pas partie. Alors, vraiment, on s'inscrit là en porte. On est vraiment à côté de la plaque au sein du gouvernement fédéral. Et l'un des éléments qui est extrêmement intéressant dans le rapport, c'est quand même de nous dire que par rapport au dernier exercice budgétaire du gouvernement Trudeau en automne 2024, donc l'année passée, on était supposé avoir la moitié moins de déficit et c'est comme ça pour tous les années. Fait que l'année prochaine, on projetait la moitié moins de déficit que ce qui est projeté avec le nouveau budget. L'année d'après encore, bref, c'est vraiment une explosion des déficits et ça fait en sorte que le directeur du bureau parlementaire dit ben attention là, moi je sonne la sonnette d'alarme parce qu'on n'est plus dans la même situation qu'on l'était il y a quelques années là. Là, on n'a plus de marge de manœuvre si on a un autre problème, si on a quelque chose comme la pandémie. On est déjà là on utilise toute notre capacité. Fait que là, ça va être très problématique s'il arrive un inattendu, en quelque sorte, au sein du gouvernement fédéral, parce qu'on n'aura plus la marge de manœuvre qu'on avait auparavant. On n'a déjà pas respecté notre premier ancrage fiscal, qui était de revenir à l'équilibre budgétaire sur le plan de l'opérationnel, parce qu'on a vu avec le rapport que c'était faux. Les chiffres qu'on avait vus n'étaient pas les bons chiffres selon les bons critères, puis qu'on n'allait pas réduire aussi le ratio de dette sur PIB. Bref, rien ne va avec ce budget-là du gouvernement Carney.
Hey, clairement, Gabriel, parce que c'est 64,3 milliards de dollars de déficit en moyenne par année pour les 5 prochaines années au Canada. Ce fameux directeur parlementaire du budget, faudrait-tu lui donner plus de pouvoir? Est-ce qu'il pourrait avoir le pouvoir de dire « Hey, one minute, Mark Carney, t'es en train de ben trop endetter le Canada, retourne à la table à dessin? »
C'est une bonne question. Je n'aime pas cette idée-là parce que je pense qu'il y a une légitimité qui provient du peuple dans l'élection. C'est-à-dire qu'on décide collectivement d'un gouvernement. Évidemment, je suis pas d'accord avec l'orientation que le gouvernement a pris, mais j'aime pas ce contre-pouvoir-là qui viendrait contredire en quelque sorte l'appui du peuple. Donc ça, j'irai pas jusque-là, mais par contre, je veux mettre l'emphase sur quelque chose de très clair, et c'est justement le fait que Le directeur du bureau parlementaire du budget, il est incontournable parce qu'il nous permet de voir clair à travers le budget, mais il nous permet aussi de voir clair à travers les différentes propositions de politique. Quand on nous dit on va mettre le centre de la petite enfance à 10 $ partout au Canada par le fédéral, non seulement on s'immisce dans les champs de compétences provinciales, mais on a aussi des chiffres qui veulent pas dire grand-chose de la part du gouvernement, qui ont plus intérêt à nous convaincre. Qu'à nous donner les vrais chiffres. Tandis que le PBO, lui, peut nous donner ces vrais chiffres-là, et j'irais plus loin. Au Québec, on en a besoin, parce que des fois, je trouve qu'on s'en fait passer des petites vitres, puis on aurait beaucoup plus de transparence si on avait l'équivalent du directeur du bureau parlementaire au Québec également.
T'as tellement raison. D'ailleurs, il y aura une mise à jour économique la semaine prochaine de la part d'Éric Girard, donc c'est clair qu'on va se reparler, Gabriel. D'ici là, porte-toi bien. On adore te jaser à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Merci pour tes éclaircissement par rapport au budget fédéral qui va passer malheureusement aujourd'hui parce que c'est un jeu politique et c'est un jeu de coulisses, puis il y en a quelques-uns qui vont être absents lors du vote.
Assurément. À bientôt.
Salut Gabriel, merci beaucoup. Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. On adore parler économie avec lui. Pascal, après la pause, on va parler à quelqu'un que... et puis je veux parler de ce sujet-là absolument. C'est la docteure Marie-Claude Roy, qui est pédiatre, mais surtout présidente de l'Association des pédiatres du Québec. On veut parler avec elle parce que ce qu'on va discuter avec Mme Roy, c'est du fait qu'avec la loi 2, il n'y a pas de priorité donnée aux enfants pour les fameuses pastilles rouges, oranges, jaunes, à savoir c'est qui les patients prioritaires, bien, il n'y a pas de priorité de nos enfants, ce qui fait en sorte qu'on est rendu déjà à 30 % de nouveau-nés qui n'ont pas de médecin de famille. Ça va être pire avec les pastilles. Puis là, je ne veux pas faire trop de drama, Pascal Sévin, mais avec l'histoire que tu nous as racontée à Longueuil, oui, on a besoin d'avoir des médecins qui s'occupent de nos enfants et qui sont alertes justement sur des cas de négligence qu'ils pourraient avoir comme ça. C'est ce qu'on va jaser avec la docteure Marie-Claude
Manquez
Roy.
Manquez pas ça. Je pense que c'est essentiel d'aller parler à ces gens-là actuellement puis comprendre ce qui nous attend.
Vraiment. Et on va terminer l'émission en jasant de sport un peu. Troisième défaite de suite du Canadien à domicile, Pascal.
Oupala, et ça n'a pas nécessairement le même sourire ce matin que celui que vous aviez en début de saison.
Blessure à Kirby Dack au pied, fracture, blessure de 4 à 6 semaines. Il y a des partisans, dont Max Arouche, qui disent « C'est fini, on ne fera pas les séries. » Est-ce qu'on en est rendu là? 418-971-1021 pour réagir. On fait une courte pause, on revient à l'émission. On en jase sur Boulevard 102.1.